Bienvenue dans cette émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission, vous l'avez entendu, en direct du Salon du Livre de Paris où France Culture a posé ses micros. Et une émission, comme chaque dimanche, en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Pierre Hiverna est à l'autre bout de la table. Elle est grande cette table. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Chaque dimanche donc en fin d'émission aux alentours de 12h25, vous nous proposez la chronique La Cerise sur le Gâteau. Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien, je vais vous parler de gastrodiplomatie.
Tiens donc. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez, quant à vous, la Madeleine 2, c'est-à-dire le souvenir gustatif d'une personnalité vers 12h15 aujourd'hui.
Aujourd'hui, la romancière Hélène Cixous.
À tout à l'heure, donc 12h15. Et pour ces bonnes choses, au Salon du Livre parisien, nous avons choisi de parler, devinez quoi ? Du livre de cuisine, et oui, ou plutôt des livres de cuisine, tant le secteur s'est diversifié depuis quelques années. Entre celui qui joue la carte de la simplicité et des joies culinaires au quotidien, celui qui vante les mérites d'une cuisine saine et équilibrée, et le livre de recettes du grand chef qui se pose fièrement sur la table basse et n'en bouge plus. Comment se porte le livre de cuisine ? Comme pour les produits frais, quelles sont les tendances du marché ? Qu'est-ce qui se vend le plus et quelle est la clé du succès, si tant est qu'il y en ait une ? Le livre de cuisine, recette de fabrication première, car oui, il y en aura une deuxième. Première partie donc, le marché, c'est notre plat du jour ce midi.
Je voulais commencer par une devinette. Est-ce que vous faites la différence entre un livre de recettes et un livre de cuisine ? Eh bien, il y en a une quand même qui est très grande, parce qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de chefs de cuisine sont des amateurs, ont envie à un moment donné de consigner leurs recettes. Alors, on sait pas grand-chose d'eux, mais on a comme ça des recettes au mieux triées, classé par saison. Et puis, un livre de cuisine, c'est un livre complètement différent. C'est un livre qui vous donne envie. C'est un livre qui vous attrape par le cœur, par l'estomac, par les papilles. Dans une belle recette, on mange autant la cuisine que le cuisinier ou la cuisinière.
En tous les cas, c'est ce que nous allons voir avec nos trois invités EES aujourd'hui au Salon du Livre. Déborah Dupont, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la librairie gourmande à Paris. J'ai envie de dire la librairie gourmande, la librairie qui vend donc des livres de cuisine, de recettes. Vous allez nous en parler. À côté de vous se trouve Valérie Tognali. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes la responsable éditoriale des éditions du Chêne. En matière de gastronomie, vous nous direz quel type de livre vous éditez aux éditions du Chêne. Et puis Laurence Houle est avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Et bienvenue. Vous êtes directrice du développement et des partenariats de chez Glénat. Alors on entendait Jean-Luc Petit-Renaud faire la distinction entre le livre de recettes et le livre de cuisine. Ce serait quoi pour vous un livre de recettes ou un livre de cuisine ? Le livre de cuisine, comme il le disait, c'est un livre qui donne envie, Déborah Dupont ?
Oui, le livre de recettes, on va dire, c'est un catalogue. Recettes photo, c'est utilitaire. Le livre de cuisine, il y a un supplément d'âme. C'est-à-dire, on va s'identifier, on va voyager, on va partager la vie d'un cuisinier, on va découvrir des produits. On est au-delà du simple catalogue.
Oui, à vous, Laurence Houle, les livres de chez Glénat, ils donnent envie. Ce sont des livres de recettes, des livres de cuisine ou les, tout,
ils
les deux à la fois.
Super envie et Déborah le sait très bien parce qu'elle les vend très bien. On leur remercie chaque jour. Nous, on est plutôt assez atypique chez Glénat ou en tout cas, on a une ligne éditoriale très claire puisqu'on est beaucoup sur le livre de chef. Voilà, donc on aime bien ce supplément d'âme qui vient apporter quelque chose. Et puis, on est aussi sur le livre tourné autour du produit parce que parfois, il y a une appellation ou un produit particulier qui peut le mériter.
Comme quoi,
ça peut être, par exemple, alors je vais passer côté vin, mais nous, on associe beaucoup le vin à la cuisine quand on parle de la chartreuse.
Mais vous avez raison.
On est sur la chartreuse. Quand on parle des vins de Châteauneuf-du-Pape, on est sur l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Donc, on est plus autour d'un produit qu'un livre défendu par un chef. Mais on aime bien ça aussi et on trouve que c'est très complémentaire à ce qu'on raconte avec les chefs.
Valérie Tognali, au Chêne, livre de cuisine, livre de recettes, livre de produits, tout à la fois.
Plus livre de cuisine, livre de recettes, je crois que maintenant les lecteurs attendent autre chose que des recettes. Ils ont envie, de rentrer un petit peu dans la tête d'un chef, de savoir ce qu'il nourrit sa créativité, comment lui-même trouve l'inspiration, les producteurs qu'il rencontre, sa démarche en termes de gastronomie, c'est vraiment très très riche. Les recettes, je pense, ne peuvent plus vraiment suffire maintenant. En tout cas, quand on a affaire à un chef qui parle.
Pourtant, vous, si je ne m'abuse, alors il y a longtemps, il y a 10 ans maintenant, peut-être que justement c'est en 10 ans que les choses ont évolué, Valérie Tognali, mais vous avez publié avec Lucille Pachot un livre intitulé 350 grammes de recettes oubliées, des recettes exhumées de vieux livres du début du XXe siècle. C'était au temps où le livre de recettes marchait encore, ou en tout cas faisait plaisir aux lecteurs?
Oui, et là c'était plus exhumer des recettes, un peu des recettes de grand-mère, des choses qui sont un peu le socle de notre cuisine actuelle. Et d'ailleurs, les chefs souvent font référence aux personnes qui les ont inspirées, et souvent ils ont beaucoup des mères, des grand-mères, et même des jeunes chefs. Récemment, j'en ai rencontré un qui voulait faire, qui est un chef très 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 moderne et très 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 dans l'air du temps, mais lui il voulait parler de la cuisine de sa grand-mère qui cuisine encore, et pour lui c'était important parce que c'est là où il a trouvé cet amour qu'il a envie de transmettre, quelque chose qui encore aujourd'hui le nourrit.
Déborah Dupont, le livre ancien, c'est aussi une thématique qui se trouve dans la librairie et qui fonctionne, livre de recettes ou pas d'ailleurs, mais on réédite des livres anciens qu'on met au goût du jour.
Alors effectivement, à la librairie, nous avons des livres anciens, vrais anciens, en vitrine sous clé, avec des ouvrages parfois du XVIIIe siècle. Donc là, c'est pour un public de collectionneurs, et on est quand même sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et puis, il y a des éditeurs qui font ce qu'on appelle des reprints, c'est-à-dire des réimpressions à l'identique. Ils scannent les textes anciens et permettent de les sortir à des tarifs abordables. Ça peut être soit la Bibliothèque nationale de France, la BNF en fait, qui a tout un fonds ancien, c'est de l'impression à la demande, et sinon l'autre éditeur spécialisé s'appelle Menu Fretin. Il a une collection archives nutritives qui est absolument passionnante et qui permet d'accéder enfin à ces textes, de pouvoir s'y plonger, et avec généralement une préface faite par un historien qui va donner le côté moderne et une approche un peu critique, un peu pour replacer dans le contexte d'aujourd'hui.
Laurence Houle.
Moi, je trouve ça très intéressant, les livres anciens, mais je dirais que les livres actuels qu'on sort aujourd'hui font partie aussi du patrimoine culinaire qui va s'affirmer au fil des années, et que finalement, les histoires de chefs, les plats de chefs, tout ça, c'est une grande histoire de la gastronomie française qui est démontrée sur papier et qui est très, très intéressante, et qui nous permet de voir les évolutions des uns et des autres et les évolutions au fil du temps. Les plats d'aujourd'hui ne sont plus les plats d'il y a 10 ou 15 ans même. La façon de dresser les assiettes, la philosophie autour des produits. Il y a vraiment des engagements de chefs sur ces recettes, et tout ça, ça contribue à écrire notre histoire patrimoniale gastronomique française.
Alors, il y a justement une évolution assez notable dans les livres même, hein, dans la fabrication des livres, avec peut-être déjà à constater depuis quelques années une révolution esthétique, la place de la photo dans les livres de cuisine a considérablement changé. La photo elle-même a changé. On parle maintenant d'ailleurs de styliste culinaire. Ça dit peut-être l'évolution des choses, Laurence Houle.
Alors, pour moi, il y a un livre qui a marqué cette évolution, et il est chez Glénat. Alors, je suis peut-être pas très objective, mais je pense que Déborah Dupont sera d'accord avec moi. C'est le livre de Frédéric Anton sur le pré-catelan. Je pense que ce livre a maintenant quasiment 10 ans. Mais il y a eu une vraie approche artistique, tant dans la fabrication de cet ouvrage que dans le parti pris de la photo. Et d'ailleurs, Richard Houghton, le photographe qui fait équipe avec Shihiro Mazui, l'auteur, sont aujourd'hui plutôt dynamiques en termes de publication. Mais le livre de Anton est un vrai tournant dans l'approche artistique d'un ouvrage.
Déborah Dupont.
Oui, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on s'est retrouvé avec déjà un très très grand format, puisqu'il était quasiment arrangeable dans les étagères. On doit être sur quasiment 40-45 cm de haut. Des photos pleines pages où on voyait le plat pris par en haut sur un fond noir ou un fond blanc qui a été la marque caractéristique et qui ensuite a été copié. Copié et pas égalé, j'ai envie de dire, parce que d'autres photographes s'y sont essayés, et c'est vrai que Richard Houghton reste un cran au-dessus. Mais là, on parle de livre de chef. Donc c'est vrai que le livre de chef, c'est quand même un vecteur à part. On est sur des livres qui sont là pour faire rêver, qui sont là presque en décoration. On sait très bien
le fameux livre dont je parlais qui reste sur la table basse et qui en général n'en bouge pas, surtout qu'il est très très lourd. Et je pense que pour faire un livre de cuisine aujourd'hui, si on veut qu'il soit pratique, il faut pas qu'il soit si épais, si grand. Il faut qu'on puisse le porter, il faut qu'on puisse le tenir, il faut qu'on puisse le salir, quoi, puisqu'il quand même il est censé servir, Laurence Houle.
Oui, mais alors les livres de chef sont plutôt des livres d'inspiration, c'est-à-dire qu'on va y trouver une idée pour dresser, on va y trouver tout l'esthétisme qu'il apporte, et puis on va peut-être s'inspirer. Alors peut-être qu'on va recopier la recette, mais c'est sûr que je doute que le livre de Frédéric Anton soit dans toutes les cuisines des bonnes ménagères françaises.
Je pense à un autre livre publié chez Glénat, c'est le livre de Mathieu Paco.
Oui. Alors, je vais revenir
très gros livre aussi, très beau, très lourd.
Sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un livre de chef, mais en fait, c'est un livre de recettes. Il n'y a que des recettes dans ce livre. On ne raconte pas d'histoire. C'est une collection classée par ordre alphabétique, l'abécédaire de Mathieu Paco, et qui vient présenter l'ensemble de ce que Mathieu fait, 350 recettes, plus de 800 pages. Et donc là, on est vraiment dans le très beau gros livre, parce que c'est assez imposant et c'est lourd. Et il y a un esthétisme particulier qui a été apporté à toute la fabrication de cet ouvrage. C'est un petit peu un ovni, mais on est très fiers de cet ovni.
Déborah Dupont.
Pour moi, c'est même le plus beau livre de ces 10 dernières années. Pour moi, il est plus beau que le Frédéric Anton. C'est-à-dire que la qualité du papier est extraordinaire.
Là, cette fois-ci, c'est Laurence Houle qui n'est pas tout à fait d'accord.
Nos livres de chef.
Oui, alors la fabrication du Paco, parce que un livre de cette épaisseur, on peut avoir des problèmes de reliure, on peut avoir des problèmes de fabrication vraiment technique. Nous, on le voit bien, le livre, on l'a mis en démonstration, ça doit faire 3 ou 4 mois maintenant qu'il est sur table à la librairie, qu'il est manipulé tous les jours. La reliure, elle tient. Et je vous assure que pour un ouvrage qui doit peser 5 kilos... Et
Je crois qu'il est à plus de 6.
Voilà, qui doit faire 15 ou 18 centimètres d'épaisseur, c'est une prouesse
en fait,
technique.
Il ne quitte pas votre librairie parce qu'il faut quand même l'emporter, alors, c'est pas si évident.
On a des clients qui l'emportent. Il est fourni en nombre. En plus, Glénat a bien fait les choses. Ils l'ont fourni dans un carton fermé totalement hermétiquement. Enfin, on est vraiment sur un objet magnifique.
Vous avez de ces types de livres-là au chêne, Valérie Toniali, et sur cette révolution esthétique, est-ce que le chêne suit?
Oui, on suit, on accompagne, on a commencé à un moment à faire des livres qui étaient plus des objets. On a plus commencé avec des livres que nous avons fait avec La Durée. On a commencé quand on a travaillé avec La Durée, on a voulu, là on n'est pas dans le livre de chef, on est plus dans un livre de marque, un livre d'univers, donc on devait vendre un univers et on a été avec les gens de La Durée, avec la marque, à accompagner et à nourrir visuellement, en termes d'objets, en termes de contenu aussi, mais en termes de forme, un souci très important au niveau de la forme, à faire des livres qui ressemblent à des boîtes de macarons, avec une très belle façon, avec du papier de soie, avec une tranche dorée. Voilà, il fallait qu'on trouve une façon de faire rêver les gens sur la durée en librairie, alors qu'ils ne venaient pas chercher obligatoirement un livre sur des macarons, et leur donner cette envie, faire reconnaître la marque et leur donner envie de cet objet, de ce livre, voilà, créer un désir.
Puisqu'on parle du public qui vient acheter des livres, quand on les édite, c'est le but, quand on est dans une librairie, c'est aussi vendre les livres en leur donnant envie au public qui vient. Déborah Dupont, est-ce qu'on peut dresser une sorte de portrait robot du client de la librairie aujourd'hui, la librairie gourmande à Paris?
Mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que tout le monde mange tous les jours, quotidiennement. Donc, il y a vraiment l'aspect utilitaire qu'il ne faut pas négliger. La transmission culinaire s'est perdue au sein des familles. Et je pense que Pierre est assez d'accord avec ça. On en a souvent discuté. Il y a une rupture générationnelle, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des vingtenaires, des trentenaires, des quarantenaires parfois, qui ne savent plus cuisiner à la maison au quotidien. Donc ils se tournent vers quoi? Vers les livres. Internet, c'est bien, mais ça ne remplace pas. Et donc le livre de cuisine se porte très bien. Il est un petit peu en déclin depuis 2-3 ans.
On va y venir justement après la Madeleine, évidemment sur l'économie du livre.
Mais c'est quand même un secteur qui est très dynamique et très porteur. Et puis ensuite, il y a effectivement un public d'amateurs éclairés, d'initiés, de quasi-professionnels, porté aussi par les émissions à la radio, à la télé. C'est-à-dire qu'il suffit de voir les succès des émissions. Les gens veulent faire des gâteaux aussi beaux que ce qu'ils voient à la télé. Les magazines se portent très très bien. Donc on a vraiment un public très divers. J'ai envie de dire c'est du 7 à 77 ans et plus de personnes qui tout simplement veulent se nourrir, voire plus.
Allez, restez avec nous, nous continuons ces bonnes choses en direct et en public du Salon du Livre à Paris. Nous allons laisser passer la Madeleine de Natacha Triou. On se retrouve dans quelques secondes.
Demain, c'est l'anniversaire de ma femme. Je vais lui faire un cadeau, je vais faire la cuisine. Ben, je devrais y arriver parce que je lui ai piqué son bouquin. Cuisiner, c'est facile, donc avec ça, normalement, il n'y a aucun souci. En plus, il y a des trucs, rien qu'en les lisant, ça m'a donné envie de les faire.
Et Natacha Triou, Salon du Livre oblige, vous êtes allée rencontrer une écrivaine.
Une grande dame des lettres, hein. Il s'agit d'Hélène Cixous qui est poétesse, dramaturge, essayiste, romancière. Elle a été récompensée par de nombreux prix littéraires, le prix Médicis en 1969 pour son roman « Dedans » et en 2016, le prix Marguerite Yourcenar pour l'ensemble de son œuvre. Alors elle qui dit que lire et vivre sont des synonymes, la cuisine et le travail d'écriture, pour elle, c'est la même chose. Après tout, c'est vrai que la littérature et la gastronomie doivent chacune être savoureuses à la langue. Alors pour sa Madeleine II, Hélène Cixous nous raconte les talents de pâtisserie de sa grand-mère.
C'est un gâteau qui est beaucoup plus qu'un gâteau. Ce gâteau est aussi un texte. J'ai fait la connaissance de ce gâteau quand j'étais très petite, que j'aimais beaucoup être dans la cuisine. Et je suivais les actions de ma grand-mère allemande, qui à ce moment-là dirigeait la cuisine et était en même temps une excellente pâtissière. Et j'aimais plus que tout un gâteau qui s'appelle le Gefüllterkuchen. Alors, la recette est très importante. Je suivais toutes les étapes, tous les chapitres du livre de ce gâteau, qui est en fait très long à fabriquer. Donc c'était un gâteau rare. On ne pouvait le faire qu'une fois par an, quoi. Donc j'attendais le jour du gâteau. Et ma petite grand-mère, qui était petite, mais qui avait une force de création, je la voyais transformer quelque chose de chaotique en pâte lisse. Et ensuite, il y avait une étape que je trouvais absolument merveilleuse. On recouvrait la boule de pâte d'un linge et on la mettait dans le lit. On le met sous un édredon parce qu'il faut que ça lève. Et alors, on attendait cette chose qui devait lever, donc comme une chose qui est en train d'être créée, une véritable grossesse, quoi. Et le matin, on regarde, et ma grand-mère avait le coup de main, certainement, puisque la pâte avait énormément levé. Une fois levée, on doit étaler avec le rouleau à pâtisserie, et ensuite, alors là, on le garnit de toute espèce de petits diamants, rouge, vert, etc., d'angélique, de... Voilà. Et puis, on le roule, et à la fin, on a une sorte de long serpent. Vous faites cuire 3/4 d'heure sans rater votre cuisson. Et puis, après, vous disposez du meilleur gâteau du monde. Bon. Et plus tard, j'ai compris que c'était le premier texte. Voilà. Pour faire un texte, il faut tout ça. Il faut une quantité incroyable d'éléments, qui sont des illuminations... des métaphores, toute espèce de joyaux. Et quand on le tranche, il y a une quantité justement de couches, de sous-couches, d'étages, exactement comme un texte. Voilà. Et chaque fois, donc, ça convoque le goûter, le suave à parler et à goûter. Et d'ailleurs, les livres, comme vous le savez, comme les gâteaux, ça se goûte et ça se dévore. Je suis gourmande, j'aime faire la cuisine, je fais pas de pâtisserie parce que j'ai pas le temps. Mais ça m'intéresse, parce que ça raconte toujours des histoires.
Voilà la Madeleine d'Hélène Cixous, et on retrouve nos trois invités en direct du Salon du Livre dans ces bonnes choses. Déborah Dupont, qui est responsable de la librairie gourmande à Paris, Valérie Tognali, qui est responsable éditoriale aux éditions du Chêne, et Laurence Houle, directrice du développement et des partenariats de Glénat. En entendant cette Madeleine d'Hélène Cixous et Déborah Dupont, je me suis demandé si un livre de Madeleine de personnalité pourrait marcher.
Alors, il y en a déjà eu. J'avoue que je connais pas trop les ventes au niveau national. Chez nous, ça fonctionne assez peu. parce que ce n'est pas ce que les clients viennent chercher à la librairie gourmande. Maintenant, il y a eu effectivement pas mal de livres chez plein d'éditeurs sur ces questions-là. Personnalité ancienne ou personnalité plus récente, à l'heure actuelle, certains éditeurs se sont un peu spécialisés dans les recettes de youtubeurs, par exemple. Donc personnalité, il y en a vraiment pour tous les publics, mais en tout cas, à la librairie gourmande, ça correspond assez peu à ce que viennent chercher les gens.
Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des modes? Par exemple, qu'est-ce qui se vend bien en ce moment?
Alors en ce moment, grande mode sur la fermentation, je pense que Valérie...
La fermentation Bigre.
Oui, la fermentation, qui est une technique finalement assez ancienne qu'on connaissait déjà très bien en France, puisque c'est une méthode de conservation, qui a été remise au goût du jour par des chefs, et notamment par le chef René Redzepi au Danemark. Et les éditions du Chêne ont sorti à l'automne dernier un livre absolument superbe sur la fermentation, et là qui est un énorme succès des ventes. Enfin, chez nous, il est en pile et il s'en vend tous les jours.
Valérie Tonialis, parce que vous suivez les modes, que vous avez sorti ça, ou vous les précédez? C'est vous qui les créez?
Oui, il faut être attentif à ce qui se passe. C'est de toute façon l'édition, c'est toujours humer l'air du temps, essayer autant que faire se peut d'être en avance. Des fois, il faut pas être trop en avance parce que
avant l'heure, c'est pas l'heure.
Voilà, donc c'est un subtil dosage entre être en avance mais pas trop, être là au bon moment. Et en effet, c'est intéressant de voir que des livres qui sont quand même assez techniques, parce que le livre de René Redzepi sur la fermentation, c'est quand même...
Oui, aussi c'est un livre épais, c'est un livre lourd, c'est un livre technique,
avec,
pointu.
Voilà, ce n'est pas fait pour tout amateur de livres de cuisine, mais ça répond à un besoin bien précis, c'est pointu, c'est sérieux, voilà.
C'est aussi ce qu'on peut produire de mieux on fait des livres de cuisine. Voilà. Laurence Houle, en demandant à Déborah Dupont s'il y avait des tendances, des modes, c'est vrai que je m'attendais plus, je sais pas, à la mode du sans gluten, sans ceci, sans cela, que à la fermentation. Elle répond, c'est passé. Donc ça veut dire que ça reste pas très très longtemps ces modes-là. Comment on fait quand on est la directrice du développement et des partenariats de Glénat pour humer cet air du temps?
Alors, humer l'air du temps. En fait, nous, on est plutôt dans l'échange avec nos chefs et on essaye d'en tirer une substantifique moelle, en fait, de qui ils sont, ce qu'ils font et là où ils vont. Et parfois, certains ont des idées bien arrêtées et sont novateurs et donc on va suivre ce côté novateur avec eux. Parfois, ça marche bien parce que les gens s'engouffrent. Parfois, ça ne marche pas. Ça arrive aussi. Je pense que tout ça est lié à l'actualité, au développement de ce qui se passe dans la cuisine, de ce qui se passe avec les producteurs. Quand on a un Christopher Coutenceau qui aujourd'hui s'affiche depuis plusieurs années, mais vraiment depuis plusieurs mois, comme quelqu'un qui veut sauvegarder les océans, qui veut respecter la pêche et les saisons des poissons, on est sur une tendance avec Christopher et avec son livre, dans lequel il affirme les choses, dans lequel il y a un engagement politique fort, et on le suit et on voit que effectivement ça marche, que les gens commencent à regarder un petit peu ce problème et commencent à s'y intéresser et à acheter nos ouvrages sur le sujet. Mais c'est pas forcément toujours le cas.
Déborah Dupont, il y a un livre qui a considérablement marché, c'est plus qu'un best-seller, qui est le livre de Jean-François Mallet. Il est sorti il y a 3 ans, il s'appelle Simplissime. Les recettes sont écrites en 2, 3, 4 lignes maximum, écrit l'auteur lui-même. Et il a décliné le principe et une collection. J'ai vu un chiffre comme ça passer, que le livre lui-même et la collection ont décliné ensuite, c'était à peu près 2 millions d'exemplaires vendus. Qu'est-ce que c'est la clé de ce livre-là, Simplissime? C'est parce que c'est très très simple. Alors, c'est l'inverse de la fermentation.
Oui, c'est effectivement très très simple. On a des visuels, enfin on a vraiment les produits qui sont photographiés en brut et ensuite les recettes tiennent en 3-4 points grand maximum. Donc ça a permis de réconcilier un public qui partait du principe que même une recette simple était écrite avec un vocabulaire pour initier, avec des termes. C'est vrai que beaucoup de livres de cuisine vont vous dire découper en brunoise. Ouais, mais très bien, je sais pas ce que c'est qu'une brunoise, ça me traumatise, j'ai même pas envie d'apprendre ce que c'est. Donc je ne regarde même pas le livre et donc je me nourris de choses achetées dans l'agroalimentaire. Simplissime a permis vraiment de faire rentrer dans les cuisines des personnes qui se mettaient des barquettes au micro-ondes. Donc ça, c'est un succès indéniable. La déclinaison en collection, je suis moins fan, parce que on s'est retrouvé avec des recettes qui, à mon sens, ont trop viré dans le simpliste. C'est-à-dire que si on prend le simplissime étudiant, par exemple, la plupart des recettes, c'est vous prenez un morceau de pain, vous l'ouvrez en deux, vous mettez des lardons, du fromage, vous faites gratiner. Je pense que les étudiants méritent un peu mieux. Donc le problème de simplissime, c'est que très vite, ça se heurte à un problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, de transmission culinaire. Il y a quand même un moment où on va pas mentir aux gens. Pour cuisiner, il faut un peu d'huile de coude, il faut un minimum quand même de technicité et on ne peut pas se contenter d'un truc totalement radé pâquerette. Il faut quand même accepter de faire un petit effort.
Laurence Houle.
Moi, j'aime beaucoup le premier simplissime de Jean-François. D'abord parce que Jean-François, c'est un photographe, mais au-delà de ça, il a fait l'école Ferrandi, donc il sait de quoi il parle. Il a une approche artistique qui est assez intéressante et qui est très appropriée à ce type d'ouvrage. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de sens. Après, comme je ne suis pas allée acheter à la concurrence l'ensemble des autres simplissimes et celui d'étudiants, je ne ferai pas de commentaires.
Déborah Dupont, un livre... Alors, fermez vos oreilles, les deux éditrices, là. Un livre en ce moment que vous aimez particulièrement. Clairement.
J'aime beaucoup le simple de Ottolenghi, donc Yotam Ottolenghi, qui est un chef israélien installé à Londres. Le livre est sorti aux éditions Hachette, qui n'est pas végétarien, qui n'est pas sans gluten, qui n'est pas, enfin voilà, mais qui est très très végétal et qui correspond effectivement à cette tendance de ne plus manger de la viande tous les jours, qui donne des recettes, enfin c'est en 10 ingrédients maximum, et vraiment on rentre du travail le soir. On fait sans problème son dîner.
Allez, restez avec nous, c'est l'heure. Pour terminer cette émission en direct du Salon du Livre à Paris, c'est l'heure évidemment de la chronique, donc de la cerise sur le gâteau. Et Pierre Hiverna, vous nous annonciez la gastro-diplomatie. Qu'est-ce donc ?
Eh oui, je voulais vous parler d'abord sans aucun comique de répétition, Caroline, de Goût de France et de... Good France. Le premier s'écrit en bon français G-O-U-T et le deuxième est en anglais good comme bon et pourrait donc se traduire par bonne France. Et la bonne France dont on va parler du 21 au 24 mars dans le monde entier, c'est celle de la gastronomie à l'occasion de la 5e édition de cette manifestation orchestrée par notre ministère des Affaires étrangères, accompagnée par le chef Alain Ducasse et qui relève de ce que l'on appelle la gastro-diplomatie. Et oui, nos cuisiniers sont des marqueurs culturels au même titre que nos artistes ou nos scientifiques et ce statut d'ambassadeur leur donne naturellement un droit d'entrée au Quai d'Orsay. De là à en faire une stratégie politique, il n'y a qu'un pas qui fut franchi par Laurent Fabius, initiateur du projet, qui pensait notre cuisine comme un argument touristique de poids et donc, in fine, comme un facteur de dynamisme économique. Mais attention, le couple diplomate cuisinier n'est en aucun cas une nouveauté politique et n'oublions pas que l'association du moment Le Drian-Ducasse a de célèbres modèles avec le couple Talleyrand-Carême. Ces deux-là mijotaient en effet toutes sortes de ruses gastronomiques pour enfumer leurs interlocuteurs. Ainsi, si le congrès de Vienne de 1814 où les souverains se réunirent pour redécouper l'Europe et rester célèbres dans l'histoire géopolitique, on trouve surtout de très nombreux récits qui parlent de ce que l'on y a mangé et bu. Et quand Talleyrand, qui ne part pas favori au congrès après la défaite de Napoléon, se fait briefer par Louis XVIII, il lui répond « Sire, j'ai plus besoin de casseroles que d'instructions écrites ». Le congrès va ainsi durer 7 mois au rythme des marmites françaises et pour certains grands dîners, Carême se charge d'étourdir les grands de l'Europe en faisant défiler jusqu'à 48 entrées, sans parler des pâtisseries dont il avait le secret en forme de château ou d'architecture imaginaire.
Oui, 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 mais quand même, Goût de France aujourd'hui ne relève peut-être quand même pas de tels enjeux de politique étrangère, Pierre.
C'est vrai, Caroline, que la manifestation n'a pas tout à fait cette ambition. Mais disons que pour cette édition particulièrement, elle affiche néanmoins quelques partis pris politiques assez inattendus dans le monde feutré de la haute cuisine. Ainsi, pour le lancement mercredi, plus de 5000 chefs se mobiliseront partout dans le monde pour proposer un dîner à la française. Mais cette année, le cahier des charges est assorti d'un thème imposé, une cuisine responsable. Entendez par là, respectueuse de l'environnement, saine et si possible comportant moins de sucre, de sel et de gras. Bref, un truc qui aurait fait fuir à toutes jambes Carême, Talleyrand, le roi, sa femme et le petit prince. Alors pour ne pas prêter le flanc à une appréciation par trop subjective de ce qu'est ou n'est pas la responsabilité en la matière, les protagonistes de Goût de France ont formé un comité d'excellents professionnels pour écrire un livre blanc de la gastronomie responsable où l'on précise notamment qu'elle doit porter une attention particulière aux ingrédients, au menu, à la préservation des ressources et au gaspillage. Et en cette période où la transition écologique ne va assez vite pour personne, sûr que le message a du sens.
C'était la chronique de Pierre Hiverna, retrouvée sur le site des Bonnes Choses et sur le site d'Alimentation Générale. Merci Pierre. Un grand merci à nos trois invités, Déborah Dupont, Valérie Tognali, Laurence Houle, Gléna et dans les allées du salon, la librairie gourmande aussi, peut-être, je ne sais pas. Non, elle n'y est pas. De même que Le Chêne n'y est pas non plus, puisque c'est chez Hachette et Hachette n'a pas de stand depuis quelques années ici. Ça n'est pas grave, c'est à retrouver bien sûr sur le site, et c'est bien sûr chez Glénat, et bien sûr c'est à retrouver sur le site dans la librairie gourmande qui est à Paris. Voilà, merci à tout le monde. Tout ça se termine à 12h30 dans la joie et la bonne humeur avec le remerciement de toute l'équipe qui m'aide chaque dimanche à préparer cette émission, et ici en direct du Salon du Livre, technique Élise Le, chargée de production Rémi Gouriot, à la sono c'était Martin Guénard, à la réalisation c'était Jean-Christophe Francis.